Au départ, une rencontre, un échange qui était centré sur le thème de l'art et l'exil, et que nous avons un petit peu reformulé sous l'intitulé « L'art, l'autre et l'ailleurs », parce que nous avons souhaité ouvrir certainement un champ de débat qui, j'espère, va se prolonger pendant des mois ou peut-être même des années. Pourquoi ouvrir ? Parce qu'ici, à cette fond, nous avons une institution qui s'appelle la Mounière, qui est cette maison des mémoires dédiée aux différentes mémoires qui se sont croisées sur la commune de cette fond. Cette institution est une institution permanente parce qu'il y a régulièrement, il y a beaucoup de débats en ce moment autour de ces thématiques. Le dernier était à Toulouse où il y avait au moins nos trois invités qui assistaient ou même étaient organisateurs. Je souhaitais, en tant qu'animatrice de cette table ronde, ancrer un échange, une thématique qui, j'espère, n'en est qu'à son début. Je parle bien sûr sous l'autorité de Geneviève Dreyfus-Armand-Auffray qui est à ma gauche. Donc avant de démarrer, je voudrais juste et de vous présenter nos invités. Je vais être un peu rigoureuse sur le timing parce qu'il y a deux de nos invités qui arrivent de Paris qui ont des contraintes d'avion. Donc on va être gentil avec eux et on va pas leur faire rater l'avion et du coup libérer leur modeste chauffeur. C'est toi qui fais chauffeur en plus. Bon. Alors, pour aborder ces thématiques de l'art, l'autre et l'ailleurs, nous ne parlerons pas que de l'exil. Je vais en premier lieu donner la parole à Geneviève Dreyfus-Armand-Auffray, qui est là, que peut-être il y a encore des gens qui ne connaissent pas. Geneviève est historienne. Nous attendons avec beaucoup d'impatience le fruit de ses années de travail sur le camp de Sept-Fonds et bien d'autres sujets. Et elle est responsable de notre comité scientifique. Elle a dirigé nos travaux depuis de longues années. Et on est, bien sûr, encore une fois, toujours heureux de la recevoir. Ensuite, à ma droite, Naïma Yahi, qui est historienne, qui est spécialiste de thématiques autour de l'exil, et en particulier qui a beaucoup travaillé sur les thématiques d'une forme d'expression populaire qui est la chanson. Et elle donnera les compléments par la suite si je n'ai pas assez détaillé, parce que je suis sûre que tu as beaucoup d'autres compétences. À sa droite, Frédéric Callens, qui est le chargé des ressources et qui vient de la Cité nationale de l'immigration. Donc il nous donnera le point de vue sur ces thématiques d'une institution et de questions qui pourront être partagées dans l'avenir avec la Mounière. Et tout à fait à droite, j'espère que certains le connaissent déjà, Salah Mokran, c'est toujours très difficile de te définir, responsable de l'immense institution associative qui est Tacti Collectif implantée à Toulouse, qu'il faut évidemment associer au motivé, à ce mouvement qui a été un mouvement important et qui a amené Salah Mokran comme élu à la mairie de Toulouse, il ne faut pas l'oublier. Donc, qui a à la fois un engagement, une carrière associative et une carrière politique. Et qui, bien évidemment, par ses liens avec le festival Origine Contrôlée à Toulouse et bien d'autres choses avant, parce que nous nous connaissons depuis qu'on est petits, presque. Voilà. Comment nous avons organisé cet échange et cette discussion ? Comme je le disais, je souhaitais donner un temps de parole un petit peu plus long à Geneviève, parce que c'est elle qui va ancrer ce projet. Je dis projet volontairement, parce que j'espère que ce travail sur l'art, l'exil, l'ailleurs, les échanges, les flux de population, vous savez que je suis attachée à ce thème, elle en a la meilleure connaissance, elle en a une pratique longue, et j'espère qu'elle sera à nos côtés longtemps et de façon constante, qu'on pourra continuer à te solliciter. Donc je lui demanderai de répondre à ce point de comment on peut interroger cet ancrage historique qui ne concerne pas que cette fond, qui concerne bien d'autres camps, mais où l'art a occupé une place privilégiée et nous en a laissé des témoins importants que nous avons entre autres aperçus tout à l'heure. J'interrogerai plutôt Naïma Yahi sur la question de la transmission. Là, on va parler d'œuvre d'art réalisée par des hommes, dans des lieux où étaient rassemblés des hommes, essentiellement. Naïma Yahi a travaillé sur une période plus près de nous et a travaillé, ce qui moi me plaît beaucoup dans son travail, c'est qu'elle a travaillé sur les familles, et en particulier le rôle des femmes dans ces transmissions et ces pratiques autour de la chanson, qui est un art intime, familial, de la maison, et qu'on transmet à ses enfants ou à ses petits-enfants, et que souvent on a hérité de la mère ou de la grand-mère. Donc ce sont aussi des thèmes peu abordés en général, et moi j'aime bien qu'on pense aussi à cette moitié de l'humanité dont on parle beaucoup ces derniers jours, notamment concernant les enfants. Je voulais demander ensuite à Salah Mokrane de nous parler de ces deuxième et troisième générations de pratiques artistiques. Alors de pratiques, j'associe beaucoup Tactique Collectif, Azebda, ou Motivé, et à des festivals comme Origine Contrôlée, qui sont à la fois des mélanges de générations, des mélanges de pratiques artistiques, et qui se continuent et qui évoluent avec beaucoup de mouvements et de dynamisme. Donc, que tu nous parles de ces pratiques et qui sont aussi beaucoup des pratiques urbaines. Vous êtes quand même très ancrés à Toulouse. Nous, ici, on est en milieu rural, j'aime bien le rappeler. Et je souhaitais demander à Frédéric Callens, l'interroger, partager avec lui ce que pourrait être un avenir de ces thématiques dans une institution comme la Cité nationale de l'immigration, mais que nous pouvons aussi tous partager. C'est comment envisager l'avenir, je dirais presque la synthèse de tous ces sujets que je viens d'évoquer, sous quelle forme, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de faire ou de ne pas faire. En tout cas, d'interroger l'avenir, parce que moi, j'aime bien regarder devant. Voilà. Je vais donner la parole à Geneviève et je prends ma montre pour contrôler. Merci, Geneviève.
Merci, Malika. Bonsoir. Alors, je vais simplement effleurer la question des artistes réfugiés des camps au travers de l'exemple espagnol. Alors, je vais, mais je pense que c'est inutile pour la plupart d'entre vous, rappeler très rapidement le contexte. La Retirada, c'est le premier grand exode transfrontalier en Europe au XXe siècle. Et il se produit à la fin janvier, début février 1939 et concerne quasi un demi-million de personnes. Le contexte espagnol, c'est celui de l'exode massif de républicains vaincus par une coalition réactionnaire espagnole, aidée par trois pays fascistes, l'Allemagne, nazie, l'Italie fasciste et le Portugal de Salazar. Et le contexte français, c'est celui d'une terre d'asile qui se referme depuis avril 1938, date à laquelle le Front populaire est mort, et où le gouvernement français a pris des dispositions restrictives par rapport au séjour et à l'entrée des étrangers sur le sol national. Et notamment le décret du 12 novembre 1938 qui prévoit l'internement dans des centres spéciaux des étrangers qui seront dans l'incapacité de trouver un pays pour les accueillir, donc qui ne sont plus protégés juridiquement par leur pays d'origine. C'est dans ce contexte donc d'une terre d'asile qui se referme qu'arrivent les républicains espagnols et les artistes et les intellectuels, évidemment, partagent le sort des dizaines de milliers d'hommes qui sont acheminés vers les camps. Parce qu'à la frontière, on sépare les familles lorsqu'elles arrivent groupées, et on envoie les femmes, les enfants et les personnes âgées dans de très nombreux départements de l'intérieur du pays, dans des centres d'hébergement qui revêtent des formes très diverses. Alors, que font les artistes et les intellectuels dans les camps? Ils vont témoigner, créer, résister et essayer de vivre. Témoigner d'une situation de détresse de milliers de personnes. Laisser des traces d'eux-mêmes et surtout de ceux qui les entourent. Et ils vont prendre de la distance avec leur vécu et leurs propres difficultés. Créer une œuvre de l'esprit, une œuvre d'art.
parce que dans le cas des républicains espagnols, il y a le, s'ajoute le fait par rapport aux artistes réfugiés venant d'autres pays à la même époque, s'ajoute le fait que la République espagnole a été pendant 8 ans, elle n'a existé que 8 ans, un moment de très grande effervescence éducative et culturelle. Elle a été appuyée par les plus grands intellectuels et artistes de l'époque. Et il faut donc, même dans les camps, continuer l'œuvre culturelle, émancipatrice et novatrice de la République. Ça, c'est une donnée fondamentale de l'exil espagnol. Donc, créer une œuvre de l'esprit, une œuvre d'art, c'est résister à l'adversité, c'est retrouver sa dignité, c'est aider les autres à la retrouver, c'est aussi, bien sûr, se préparer à reprendre le combat contre la dictature, contre l'obscurantisme culturel qui est sa marque. C'est se préparer à poursuivre sa vie d'être humain, pensant, critique, constructif et créatif en dehors des camps. Et survivre avec son travail, et peut-être essayer d'en vivre. Parce que dans les camps, les œuvres, les dessins s'échangent avec les gardiens, avec les autres prisonniers, contre la nourriture, contre un supplément qui peut aider à vivre. Les dessins, les peintures ou les objets qui sont d'artisanat, qui sont nombreux à être fabriqués dans les camps, se vendent lors d'expositions qui sont organisées dans le camp. Il y a une permission à ce moment-là pour les gens extérieurs de venir d'y accéder. Et puis il y a des œuvres qui passent à l'extérieur du camp et qui peuvent être vendues. Alors évidemment, ces premières ventes, c'est pour survivre avec son travail artistique, essayer de survivre, et puis après pouvoir peut-être en vivre. Alors je suis désolée pour la très mauvaise qualité des reproductions. Je vais parler d'abord de la Presse des Sables. C'est un ouvrage auquel j'ai beaucoup contribué, et notamment à sa publication, qui est paru en 1989, qui s'appelle Plage d'exil, bien sûr épuisé depuis longtemps. L'ouvrage a été numérisé et la numérisation est tellement verrouillée que je n'ai pas pu extraire ce que je fais sur différents sites internet, je n'ai pas pu extraire les images. Donc je les ai refotographiées à partir du livre. Donc je suis désolée de la mauvaise qualité. Mais cela montre que pendant l'année 1939, la majeure partie des réfugiés est internée dans les camps. Hein. Ils sont très nombreux. Il y a au milieu du mois de mars, il y a 300 000 hommes internés dans les camps du Roussillon et puis dans différents départements de l'Hérault, de l'Aude et ici à Sept-Fonds. Et les camps vont devenir paradoxalement le lieu d'une expression culturelle significative, car c'est la seule occupation collectif qui est toléré par la censure et les autorités des camps. Et cela devient, la culture est un moyen de combattre le désarroi des internés, de remédier à leur désœuvrement. Elle est aussi, et ça j'insiste beaucoup parce que c'est fondamental, la continuation de l'expérience éducative et culturelle entreprise en Espagne par la République. Alors, comment font-ils pour faire cette Presse des Sables? Il y a une trentaine maximum d'exemplaires qui ont pu être retrouvés. On en a publié de larges extraits dans Plage d'exil en 1989. Et le coordinateur Jean-Claude Villegas a reproduit deux dont je parlerai plus tard dans un livre récent. Et les internés n'ont rien. Ils vivent dans le dénuement le plus total, comme le rappellent les photos que l'on vient de voir. Et différents comités de solidarité vont leur fournir du papier, des crayons, de l'encre, des couleurs. Et c'est vital pour les étudiants et les enseignants internés de continuer dans la lignée de la période de la République. Alors, ils vont publier une presse manuscrite, bien souvent, parfois dactylographiée lorsqu'ils arrivent à disposer d'une machine. Et il va y en avoir à peu près dans tous les camps, Argelès, au Barcarès, à Saint-Cyprien, à Sept-Fonds, je n'en ai pas vu encore. Mais qui sait s'il en apparaîtra peut-être un jour. Mais également dans les camps qui sont dressés en Afrique du Nord, dans la région d'Alger, il y en a aussi. Et dans le camp d'Argelès, il y a ce fameux bulletin des étudiants, le Boletín de los Estudiantes, qui affirme donc cette continuité avec l'Espagne républicaine. On voit que le graphisme s'améliore au fil du temps. Et d'ailleurs, ces étudiants pensent que leur exil est tout à fait provisoire. Et ils affirment que ce sont eux l'Espagne, la véritable Espagne. Et ils écrivent... Le travail constructif réalisé par la République espagnole pendant 8 années dans le domaine de l'instruction publique a été totalement anéanti par le gouvernement de Burgos. Ce sont eux l'anticulture, ils ne sont pas l'Espagne, c'est nous qui sommes l'Espagne. Ils sont en dehors, ils sont en exil, ils sont vaincus, ils sont en exil, mais ils proclament que ce sont eux l'Espagne. Donc ces bulletins sont réalisés aussi par des enseignants. On voit que la matière devient de plus en plus meilleure, que la calligraphie des enseignants est très, très élaborée. Il y a de superbes dessins, que la couleur là aussi apparaît. Et dans ces bulletins, pour ne pas laisser prise à la censure, les préoccupations culturelles sont dominantes. Les auteurs pratiquent un art savant de la litote, un humour qui met à distance les problèmes. Et ils évoquent parfois la nostalgie de l'exil, mais à peine. Et ces bulletins servent aussi à organiser la vie culturelle qui est menée dans les camps. Parce que dans la plupart des camps, il y a, à cette fin également, et ça c'est très, très important, il y a beaucoup de cours qui sont organisés, d'alphabétisation, d'enseignement primaire, des cours de langue, des leçons d'hygiène et d'éducation sexuelle, des cours de mathématiques, mais également d'éducation physique et sportive. Puis, à la fin du mois de juin 1939, à partir du camp d'Argelès, il y a 12 peintres, dessinateurs, poètes qui vont être accueillis dans le château voisin de Valmy. Et là, ils vont pouvoir créer, pendant pas très longtemps, pendant 3 mois, ils vont pouvoir créer 2 revues superbes, Desde el Rosellón et Baraca. Desde el Rosellón, qui est comme Baraka, comporte de nombreuses créations poétiques, plastiques, qui évoquent les douleurs de l'exil. Et vous voyez là, ça c'est Baraka, du nom de la mission éducative menée par et du théâtre de Garcia Lorca. Dans les camps, la poésie va tenir une très grande importance. D'une très grande importance, des récitals de poésie sont prévus dans les coins de la culture. Les poètes les plus appréciés des internés sont Lorca, Machado, Juan Ramón Jiménez. Ce choix d'ailleurs n'est pas est littéraire autant que symbolique. Lorca a été fusillé à Grenade dès le début de la guerre par les franquistes. Machado est mort à Collioure quelques jours après son arrivée en France. Et Juan Ramón Jiménez obtiendra le prix Nobel de littérature après la guerre mondiale. Et des poèmes sont écrits dans les camps, publiés dans les bulletins que l'on vient de voir. D'autres sont écrits après la sortie du camp, comme ceux de Manolo Valiente, Arena y Viento notamment, dont vous voyez là un extrait. Il éprouve le besoin, après ses 41 mois d'internement, d'écrire ses poèmes autour du sable et du vent. Alors, il y a des photographes dans les camps. Alors, le plus connu, bien sûr, est Agustí Centelles, qui a mené une carrière de photographe en Espagne, avant la guerre, pendant la guerre. Et en 1939, il est évacué, d'abord depuis Barcelone, il est interné à Argelès, puis à Bram. Et là, il se trouve protégé de façon inattendue par sa carte de la Fédération internationale des journalistes, et il va réaliser dans le camp plus de 583 clichés, tout en écrivant sa vie quotidienne dans son journal. Alors, il photographie ses amis d'abord, il photographie le camp, les baraques, les barbelés, les autorités, les différentes tâches, et puis il fait des portraits de la vie quotidienne. Mais je vais surtout insister sur un autre photographe qui est beaucoup moins connu, qui est Guillermo Zúñiga. Guillermo Zuniga est un cinéaste. Est un cinéaste qui a, dans les années 30, fait partie aussi des missions pédagogiques lancées par la République pour diffuser le cinéma comme moyen de divulgation de la science en dehors de l'université, pour démocratiser la culture. Et Zuniga est aussi un photographe scientifique. Pendant la guerre, il a mis aussi ses connaissances et son expérience cinématographique au service de la cause républicaine. Et lui va aller dans les camps d'Argelès, de Bram et de Montolieu. Et il va filmer, vous voyez là, alors que Saint-Teyès, lui, est autorisé, c'est au vu et au su de tout le monde qu'il fait des photos. Il en vend même aux gardiens du camp de Bram. Zuniga, non. Il le fait de façon clandestine, cachée. Donc ces photos sont tout à fait différentes. On a pu retrouver 128 clichés correspondant à divers camps, notamment ceux d'Argelès et de Bram. Là, vous voyez les hommes derrière les barbelés ou des tirailleurs sénégalais les installant, justement, l'intérieur d'une baraque dans le camp de Montolieu. Le camp de Montolieu, qui est près de celui de Bram, dans l'Aude, et qui est un camp dit des intellectuels. C'est un petit camp où il y avait seulement 400 réfugiés. Là, on voit l'intérieur d'une baraque. Et dans ce camp de Montolieu, on voit là sur la gauche une baraque où il y a un panneau marquant les Quatregats. Alors, excusez-moi pour mon accent catalan, cela fait référence à un cabaret très célèbre à Barcelone au début du XXe siècle, qui était un lieu de création, un lieu de discussion, d'exposition, qui a publié une revue, et beaucoup d'artistes des Espagnols y ont travaillé ou y sont passés, comme Picasso ou Julio González. Et cela montre effectivement la volonté de revendiquer une continuité. Et les photographies de Zuniga sont extrêmement intéressantes par le fait que là, ce sont des photos quasiment clandestines. Alors, celles de Saint-Teyès ne le sont pas moins, parce qu'elles ne montrent jamais l'abrutissement ou directement la mort. Son objectif, et c'est de survivre grâce à la photographie, d'affirmer la dignité de ceux qu'il photographie. Il est en empathie avec ceux qu'il photographie. Il prend de la distance avec son sujet quand il photographie des scènes humiliantes, comme elles sont nombreuses dans les camps, comme déféquer en groupe ou s'épouiller. Et Saint-Teyès, comme Zuniga, ont un respect pour la personne qu'il photographie. Alors, il y a aussi, évidemment, dans les camps, dans la photo précédente, il y avait cet artiste que nous voyons là en train de dessiner, c'est Elios Gomez. Et, justement, Elios Gomez, on retrouve un de ses dessins ici. Elios Gomez a commencé très tôt à dessiner. Il a, dans les années 30, parcouru une grande partie de l'Europe, s'imprégnant de tous les courants avant-gardistes en dessin et en peinture. Là, on voit donc sur la gauche un de ses dessins. Et en exil, il est passé par Argelès, par Bram, par Le Vernet et Djelfa, au sud de l'Algérie. Et vous voyez à côté un dessin de Joseph Bartoli. Joseph Bartoli est passé par le Barcarès, par Bram. Un de ses neveux, Georges Bartoli, a publié il y a quelques années un recueil de ses dessins. Un film est actuellement en préparation sur Joseph Bartoli. Un film d'animation fait par l'équipe qui a réalisé un très très bon film politique d'animation qui s'appelle... Le titre m'échappe, mais il me reviendra. Et Joseph Bartoli, après la guerre mondiale, pendant la guerre mondiale, a pu partir au Mexique et il devient l'ami et probablement davantage de Frida Kahlo. Et il poursuivra sa carrière artistique aux États-Unis. Autre exemple, Eduardo Robles Piquer, qui était architecte. Il était le vice-président du Collège des avocats de Madrid. Et là, il est interné à Saint-Cyprien. Et on peut dire qu'il préside à la construction d'une baraque, puisque dans beaucoup de camps, ce sont les internés eux-mêmes qui ont construit les baraques. Et à côté, vous avez un dessin concernant Argelès de Eduardo Robles Piquer, qui était lui aussi céramiste, peintre, et qui montre la vie quotidienne dans les camps. Alors, je voudrais m'attarder un peu plus sur Joseph Frank Clappers, qui a passé 11 mois à Saint-Cyprien et à Gurs. Et pendant cette période, il n'a que deux préoccupations, survivre et témoigner de l'enfermement. Et c'est probablement à lui que l'on doit le témoignage graphique le plus complet sur les camps français, le plus ample. Des centaines de dessins ont été accumulés jour après jour. Et après sa sortie des camps, il a continué à évoquer cette période d'enfermement dans des huiles, dans des mosaïques, souvent de grandes dimensions. Et il a un style propre, très, très personnel, qui va évoluer au fil du temps. Parfois, certains critiques disent qu'il a souvent des personnages très allongés qui évoquent le Gréco ou Matisse. Mais après, il a un style extrêmement personnel. Et il va sortir avec une compagnie de travailleurs étrangers en Provence. Il va être affecté à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Réquisitionné par l'organisation Todd, il s'évade et il devient clandestin dans la région, mais il va survivre grâce à des Français qui l'aident, et il épousera d'ailleurs la fille de ceux qui l'ont aidé à survivre pendant cette période de l'occupation. Et à Saint-Rémy-de-Provence, il va recevoir Picasso, il va recevoir beaucoup d'artistes, et une rue de Saint-Rémy-de-Provence porte son nom. J'arrive à cette fond, et je vais en parler très peu parce que le temps passe et je crois que la plupart connaissent les œuvres qui sont présentes ici à la mairie et dans l'église. Voilà une photographie du camp de cette fond. Et comme dans les camps d'Argelès, de Barcarès, de Saint-Cyprien ou de Gurs, une activité culturelle voit le jour dans le camp de cette fond. Et c'est avec le sport la seule occupation collective, donc tolérée par les autorités, en dehors des corvées imposées. Des enseignants, des artistes, des étudiants également, mais également des militants politiques, désireux de perpétuer les motivations de leur combat, sont les initiateurs de ce travail d'éducation et de diffusion de la culture. Là, vous voyez deux dessins qui sont dus à Luis García Gallo, dit Coq. Luis García Gallo avait fait des études artistiques à Bilbao, travaillé en Espagne dans la publicité et pendant la guerre collaboré à différents journaux et réalisé nombre de caricatures de Franco. Et il signait Gallo et dans la presse française après-guerre il signera Coq, puisque Gallo veut dire coq en castillan. Et il travaillera dans la presse française, dans différents titres, Paris Presse, L'Intransigeant, Jour de France, Ici Paris. Dans les années 60, il fera même une bande dessinée avec René Goscinny en faisant les dessins de la bande dessinée. Et là, on voit son ami Mariano Marcos qui se bat avec les rats, soit la nuit avec son harnachement invraisemblable pour se protéger des rats, soit en essayant de les tuer avec un marteau. Mariano Marcos est décédé l'an dernier à plus de 103 ans. Il était architecte et notre ami. D'autres artistes sont passés par le camp de cette fond, comme Hilarion Brugarolas. Mais à ma connaissance, il n'a pas fait cette œuvre dans le camp. Il n'a pas, à ma connaissance, fait de travail artistique dans le camp. Et il a peint ce tableau en 1964, alors qu'en général, sa peinture, ce sont des paysages, des marines, des natures mortes, des fleurs ou des femmes. Il travaille sur site. Et là, il a eu le besoin, des années après, d'évoquer le camp de Ceffond et l'internement. Et on voit dans ce tableau, il a voulu donner une idée du surpeuplement, de l'angoisse, de la tristesse de ces hommes rendus anonymes par cette concentration dans un environnement gris et contraint. Comme quoi l'enfermement a hanté pendant des années les artistes passés par les camps. Alors je serai très rapide pour être dans les temps. Voilà, alors j'évoque simplement José Roa et ses peintures très romantiques, notamment celle de gauche, on aperçoit l'église de la Lande avec ce beau croissant de lune, et puis je ne vais pas parler de Salvador Soria Zapater. Alors pour expliquer pourquoi les coins tronqués, simplement cela. Parce que ces toiles ne sont pas faites sur des toiles classiques. Elles sont faites sur des toiles de jute de sacs de pommes de terre que l'on clouait au mur, aux quatre coins, pour qu'elles tiennent. Et quand on les a déclouées des murs, il a fallu couper les coins. Voilà l'explication de leur forme bizarre. En tout cas, Salvador Soria s'est implanté à Ceffond puisqu'il a épousé une habitante de la ville. Il y a une carrière internationale importante. Et évidemment, le tableau emblématique de Joseph Ponti, dont on ne sait pas grand-chose de l'artiste, ni des motivations du sujet. C'est probablement une allégorie. L'arrivée des réfugiés à Ceffond n'a pas dû se passer comme cela. On reconnaît cependant des éléments du décor de la ville, de la mairie. On voit le maire de l'époque, monsieur Urbain Solomiac. Et le peintre a sûrement dû vouloir rendre hommage aux Ceffondois pour leur solidarité dont ils ont fait preuve à l'égard des réfugiés, sans que nécessairement l'arrivée des réfugiés ne s'est pas passée comme ça, et elle ne s'est pas passée comme ça. Voilà, les tableaux représentant le chemin de croix à l'église sont en cours de restauration, m'a-t-on dit, de Bonaventura Trépat et de Joseph Marty, deux artistes à qui le curé de Ceffond avait demandé de repeindre l'église et ensuite. Et ensuite, pour le remercier, ils ont fait ce chemin de croix. Alors que les deux autres artistes dont j'ai parlé, c'est le maire qui leur avait demandé des peintures pour célébrer le 150e anniversaire de la Révolution française. Alors je voudrais m'arrêter simplement sur cette dernière vue, qui est un hommage aux deux artistes de l'église, Bonaventura Trépat et Joseph Marty, et pour dire que l'exil républicain était constitué de toutes les traces, de toutes les strates de la société espagnole. C'est un pan entier de la société espagnole qui s'en va, composé de gens de différents milieux et de différentes régions. Et il y avait de nombreux artistes et intellectuels et qui, réfugiés en France, ont connu les difficultés de l'exode comme leurs camarades. Et souvent, les pratiques artistiques vont les aider à survivre dans les moments de détresse morale et de pénurie matérielle, les aidant un petit peu parfois à améliorer l'ordinaire. Et la défense de la culture était pour eux un impératif, une façon de combattre la dictature. Et pour beaucoup, puisque la dictature se prolonge, beaucoup d'artistes et d'intellectuels vont rester en France. Et ils vont s'installer souvent dans la région, parfois aller en région parisienne qui était vraiment le centre de la vie artistique. Et ils vont contribuer très, très abondamment à l'enrichissement de notre patrimoine commun. Je vous remercie de votre attention.
Merci Geneviève. Je la remercie d'autant plus qu'elle nous a fait une courte conclusion sur laquelle il nous suffira de repartir. D'une part pour relire et regarder, je fais un petit aparté puisqu'il y a une très belle exposition à l'abbaye de Beaulieu en ce moment que nous sommes allés voir ce matin sur Exil et Résistance, et qu'on peut effectivement aller voir cette exposition à la lumière de ce que Geneviève vient de résumer formidablement en une seule phrase. Merci beaucoup Geneviève. Je vais donner la parole à Naïma.
Merci. Alors, merci Geneviève. Vous nous avez régalé. Régalé parce que ce matin, nous débattions à Moissac sur l'absence de recherche et de valorisation sur des aspects aussi importants que l'expression artistique sensible des immigrations, qu'elles soient dans les contraintes politiques qui sont celles des réfugiés espagnols et de la retirada, et ou bien dans le contexte qui est celui de mes travaux, dans le cadre colonial et postcolonial, puisque je me suis intéressée aux artistes algériens de l'immigration. Alors moi, je vais rester sur la musique, mais on aurait pu avoir un échange croisé sur les arts plastiques, et on va le réorganiser, et on reviendra. Mais j'étais prête à vous céder mes 10 minutes pour continuer à vous écouter. Et je trouvais très, très émouvant le tableau de la mairie, que je ne connaissais pas. Il est très saisissant, et surtout quand on connaît l'histoire des toiles qu'il y a derrière, on est vraiment... Je ferme la parenthèse. Alors, chère Malika, merci pour cette invitation. Merci à la mairie de nous avoir conviés et nous avoir fait cet honneur de participer à cette aventure de la Maison des Mémoires. Alors moi, je dirais rapidement, pour circonscrire mon propos et vous présenter rapidement ma démarche, j'ai effectivement travaillé sur l'empreinte artistique et culturelle de l'immigration, d'abord algérienne dans mes travaux de doctorat, ensuite maghrébine dans mes travaux de muséographie et de valorisation grand public, d'éducation populaire. Et j'ai eu le plaisir du coup de travailler il y a quelques années et encore aujourd'hui avec Tacti Collectif et le festival Origine Contrôlée, donc on fera le lien. Alors pour aller vite et pour résumer ma pensée à la question de la transmission et du rôle singulier des femmes dans l'immigration, on a beaucoup dit, pour des raisons démographiques évidentes, que c'était pour les Algériens une immigration masculine. On disait la noria des travailleurs nord-africains. Vous savez, cette migration de remplacement, on travaille quelques années, on rentre au pays, on est remplacé par un frère, un cousin, un fils, un petit-fils. Et c'est vrai que l'immigration féminine a été, pour des raisons démographiques, assez peu abordée. Hein, plus invisible que le travailleur immigré, c'est sa femme. Et l'empreinte sensible de l'immigration permet parfois de rétablir une certaine vérité quant à la présence d'abord dans l'imaginaire et ensuite physique des femmes dans l'immigration, puisque si elles n'étaient pas aux côtés de leurs époux dans les premiers temps, quand ils étaient soldats sous les drapeaux, ouvriers agricoles pour suppléer pendant les temps de guerre ou de l'entre-deux-guerres, et enfin ouvriers répondant aux besoins de main-d'œuvre après la Seconde Guerre mondiale et durant les Trente Glorieuses, on a comme ça une création féminine dans la chanson de variété qui va d'abord rappeler la souffrance des femmes laissées au village et qui va ensuite participer parfois dans des temps de résistance, pour faire le lien avec ce que disait Geneviève quand on évoque la guerre d'Algérie. Je pense à une chanteuse comme Warda, si vous connaissez un petit peu la chanson arabe, Warda al-Jazairia, qui est une enfant de l'immigration, puisqu'elle est née en France. Alors, c'était une coquette, donc elle n'a jamais vraiment donné sa date de naissance, mais on dit en 1938. Elle a grandi dans les rues de Paris, au quartier latin, et elle est devenue par la suite l'une des plus grandes chanteuses du monde arabe. Après le décès de la diva Oum Kalsoum, elle était considérée comme la plus grande voix. Elle a fini sa vie, sa carrière au Caire, celle qui a grandi dans les rues de Paris, qui a connu les cabarets orientaux et aussi le Paris de Juliette Gréco, a ensuite été cette chanteuse de la résistance algérienne et a chanté les Moudjahidas, les combattantes de la guerre de libération algérienne, dès la guerre d'Algérie, donc dès les années 58, 59, 60, puisqu'elle connaît l'exil. On reprochait à son père, qui tenait un petit cabaret, le cabaret Tam Tam, dans le 5e arrondissement, de cacher des armes pour le Front de Libération Nationale, le FLN, tout en étant suspecté par le FLN de renseigner la préfecture de police. Donc vous voyez, rien n'est simple. Et donc cette famille est expulsée, la famille Ftouki, avec elle, leur fille Warda, qui était déjà une jeune artiste, puisqu'elle était animatrice d'émissions de radio sur l'antenne de l'ORTF. Elle animait des émissions en arabe sur les antennes françaises à destination des publics arabes et berbères. Et elle part en exil. Elle part en exil. Et ça, c'est la trajectoire d'une Warda qui deviendra la grande chanteuse du monde arabe. mais on a à côté de Warda des trajectoires individuelles des femmes, majoritairement kabyles, comme l'immigration, qui était majoritairement kabyle, qui vont d'abord incarner cet exil au féminin. Et si ces femmes, au tournant de la Seconde Guerre mondiale, vont donner une voix féminine à l'exil, vont chanter les affres de l'exil, la douleur de l'arrachement à la terre natale, les siens qui nous manquent, les paysages du pays, elles vont aussi être à l'origine de cette chanson de variété, puisque Idir le rappelait hier durant son concert à Moissac, c'est par sa mère qu'il rencontre la poésie berbère, c'est par sa mère que les contes et légendes nourrissent sa création de poète et de chanteur, et c'est par la tradition orale que ces femmes algériennes et plus largement maghrébines vont amener à la création, y compris les chanteurs et les poètes. Et c'est cette tradition, cette oralité maghrébine qui va irriguer les premiers temps de la chanson de variété de l'exil. Je vous dis Moissac puisqu'on y était et puis que c'est pas très loin, à une heure d'ici. Mais il y a ce chanteur kabyle qui est enterré là-bas, qui s'appelle Slimane Azem. Et cet artiste, qui est aujourd'hui un artiste de France, qui est partie prenante du patrimoine culturel de France, on pourrait trouver ses pendants chez des artistes femmes, des chanteuses, comme la chanteuse Noura, on vous montrera quelques images rapidement en fond tout à l'heure, qui, comme lui, était distinguée au début des années 70 d'un disque d'or pour ses ventes en France. Cette chanteuse que vous ne connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas d'origine maghrébine, elle a été l'une des plus grandes artistes de l'exil. Elle remplissait des salles comme l'Olympia, la Mutualité, ou des salles en province où les diasporas maghrébines se rendaient nombreux pour l'entendre chanter des chansons d'amour, des chansons d'exil, des belles chansons qui parlaient de leur expérience dans cette trajectoire de l'immigration. Et pour aller vite et parler de cette transmission et des enfants de l'immigration, je dirais simplement que ces femmes sont l'épine dorsale de la transmission poétique, sensible, imaginaire de cette expérience singulière qu'est l'immigration. Je vous l'ai dit tout à l'heure par la poésie, les contes et légendes, ensuite comme actrice de cette création, comme chanteuse, on a connu, je crois, plus récemment des silhouettes truculentes comme Sheikha Remiti, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Nous étions à déjeuner avec Souad Massi, une artiste peut-être que vous connaissez un peu plus, beaucoup plus jeune, qui arrive beaucoup plus tard en France. Mais on a comme ça des artistes qui portent ces répertoires et cette proposition artistique. Mais après, on a les enfants. Le travailleur immigré, l'invisible, l'invisibilisation des femmes qu'on enferme dans le... En tout cas, qui s'enferme dans cette image du foyer, le cercle privé, sont aussi cette charnière avec la génération d'après, ce qu'on a appelé les beurs dans les années 80, avec, si vous connaissez un peu l'histoire des mouvements sociaux, ce grand événement qu'a été la marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983, qui va être le point d'acmé des mouvements sociaux portés par les enfants d'immigrés à cette époque, même s'il y a eu d'autres mouvements contre la double peine, contre les expulsions, contre les crimes sécuritaires et racistes qui vont toucher de manière conséquente cette génération, on a plusieurs centaines de jeunes qui meurent au tournant des années 80, soit sous les balles d'un voisin excédé par le bruit, soit dans le cadre d'un contrôle de police qui tourne mal. Et on a comme ça, à l'époque, une tension sociale très forte, alors que montent politiquement les thèmes portés par l'extrême droite qui connaît ses premières victoires électorales. Et dans ce contexte, cette génération qu'on dit beurre à l'époque commence à entrer sur la scène artistique avec des générations d'artistes qui vont préfigurer, on parlait de Zebda, qui vont préfigurer Zebda, qui vont préfigurer Rachid Taha, qui vont préfigurer Insmaïn, ou dans d'autres disciplines artistiques des enfants de l'immigration qu'on va appeler donc beurre. On disait à l'époque « beurre is beautiful ». Il y a eu quelques années comme ça où c'était à la mode. Et avant, bien sûr, un retournement en termes de prise en compte d'opinion publique de cette génération qui sera beaucoup plus douloureuse dans les années banlieues dans les années 90. Cette génération, dans un premier temps, a besoin de se raconter, de témoigner de ce qu'elle est. Elle est loin de ces chansons de l'immigration, même si on a quelques tentatives de rock kabyle ou de rock arabe. Et la réussite de cette musique sera incarnée par Carte de Séjour et son leader Rachida, qui va proposer une forme hybride d'expression qui mixe les codes du rock, la plus pure tradition du rock, avec les langues vernaculaires arabes et kabyles, qui vont raconter le sort de cette jeunesse prolétaire des quartiers. Donc vous voyez, on a un contexte social qui est celui des territoires, des quartiers très urbanisés, on appelle ça la banlieue. La question de la filiation culturelle pour des enfants d'immigrés, y compris de la question harki, puisque la moitié des marcheurs de 83 sont des enfants de harki. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, puisque je sais que je n'avais que 10 minutes, faire le lien avec aujourd'hui, depuis les années 2000, une forte demande sociale, en partie portée par ces descendants d'immigrés, pour se réapproprier et inscrire dans le patrimoine, en commun, comme l'a rappelé Salah ce matin, cette tradition des chansons de variété portée par leurs aînés. Alors, pour ponctuer, et si ça fonctionne, Salah, le petit... On va essayer de le mettre. Je te laisse peut-être me le mettre pendant que je termine mon propos. Si elle n'est pas là, je vais pas vous embêter. On va perdre un peu trop de temps. Elle a disparu. Alors, je terminerai simplement, si on arrive à le mettre, c'est bien, sinon c'est pas grave, par évoquer quelques artistes, quelques noms rapidement, puisque vous ne les connaissez pas forcément. Mais déjà, est-ce que vous connaissez la chanson maghrébine en général? Pas particulièrement. Il y a une chanson peut-être dont vous avez entendu quelques notes, qui s'appelle Yaraya. Est-ce que ça vous parle? Pas particulièrement. Donc on va peut-être l'entendre. Alors Yaraya, je vais chanter, hein, c'est pas grave, je le ferai, hein, y a pas de souci. Mais je suis sûre que vous la connaissez, ça fait tintanin, tintanin, non? Ya raya wena tsafer trouh taya wotouli. Ça vous parle ou pas? Oui, vous savez, c'est la chanson qu'on vous met quart d'heure rail en boîte de nuit. C'est le moment où on amortit ses cours de danse orientale et on vous met la chanson de Rachida qu'il reprend au début des années 90, en pleine guerre du Golfe. C'est une chanson qui raconte un peu les espérances de l'exil qui sont un échec. Toi, l'exilé, celui qui s'en va, comme d'autres avant toi, tu iras et tu repartiras. La déception de cet Eldorado de l'exil où on part la fleur au fusil pour trouver la fortune et une vie meilleure. Et parfois, ce rêve se brise devant les contraintes et la dureté de la vie de l'exilé. C'est en substance le message de cette chanson d'Ahmed Harrachi, qui est un grand... Voilà, on l'entend là. Voilà. On va le voir. Je vais vous laisser regarder, écouter un peu.
مسافر تروح تعيا وتولي شحال بلدان العامرين والبر الخليج شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخليك يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ديك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال نقول العباد الغافلين قبلك وقبلي وعلاش هكداك الزوالي ما تدومش الداوي لا بطيت علم وكتب لي ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك يظهري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي نعطيك وصايتي ديها عالبكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا النايم جاني خبرك ما صرالك أسرالي هكذا راد وقدر في الجبين صبحان العالي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلك
Donc vous voyez, pour un dernier mot de conclusion, ces artistes, cette chanson que vous avez reconnue, moi je ne l'ai pas très bien chantée, je vous l'accorde, mais elle a été imaginée, enregistrée, imprimée, diffusée, vendue à Paris, depuis Paris, c'est à Paris. C'est une chanson de France, c'est un monument de la chanson algérienne. Et tous ces artistes que vous voyez, ils ont été photographiés par les photos Harcourt que vous avez reconnues, ils ont été distribués par Philips, Barclay, Ducreté, Thompson, Pathé Marconi, comme vous l'avez vu. C'est une histoire de France qu'on a en partage avec le Maghreb, avec les pays d'origine. Et cette j'allais dire, cette création que nous avons, c'est une richesse que nous avons en partage. Et les enfants de l'immigration, puisqu'on parlait de transmission, en sont les héritiers. Et comme l'ont fait, et je m'arrêterai là, Moussa Hakim, ils ont permis cette jonction avec le grand public, puisque ces artistes-là, dont je vous parle, vous ne les connaissez pas globalement, à moins d'être vraiment soit hyper digueur et collectionner des disques, soit d'être une famille maghrébine. Mais c'est pourtant des artistes qui avaient une vie ici, même si elle était souterraine, une vie très riche, avec des moyens pour produire, et qui ont marqué de manière, j'allais dire, importante, et ont leur place au patrimoine de France. Et je pense que ces expériences de transmission, de mise à disposition, sont importantes pour nourrir notre travail d'histoire. Voilà, merci.
Puisque nous avons terminé sur une image de Zebda, je ne ferai aucun commentaire. Je passe le micro à Salah.
On a un numéro très bien rodé avec Naïma. Non, je vais essayer. Donc moi, je vais parler d'un point de vue qui est... moi, je ne suis pas historien, donc je suis un acteur culturel, un militant politique, comme l'a dit Malika tout à l'heure. Et finalement, je suis de cette génération qu'on dit être la deuxième génération, qu'on a appelé les beurs, cette deuxième génération d'immigration. Donc moi, je suis né en France, mon père est arrivé dans les années 60, et ma mère également. Et donc je suis de cette génération qui est née aussi, donc je suis aussi né dans les années 60, mais qui est née politiquement dans les années 80. Donc dans les années 80, ça a été évoqué par Naïma Yahi tout à l'heure, c'est un moment très très important quand on veut parler de cette histoire-là, et y compris d'un point de vue culturel et artistique, parce que c'est... une génération qui arrive à l'âge de la majorité, en gros, entre 16 et 20 ans, un tournant politique très très important en France qui va libérer des énergies, voilà, l'élection de François Mitterrand, dans l'élection de François Mitterrand, on a retenu bien sûr les mesures sociales, l'abolition de la peine de mort, et il y a aussi un élément qui est très très important et qui va permettre une explosion culturelle et militante, c'est d'une part les radios libres, donc l'autorisation d'émettre librement sur la bande FM, et une autre, très importante aussi, l'autorisation, le droit pour les étrangers de s'associer, c'est-à-dire de créer une association, loi 1901. Avant 81, les étrangers n'avaient pas le droit de créer une association loi 1901. On aurait aimé aussi qu'il y ait une autre promesse. Bon, ça fait. J'aurais aimé qu'il y ait une autre promesse, qu'il y ait le droit de vote des étrangers, mais bon, ça sera pour plus tard, mais ça fait longtemps quand même. Bon, donc voilà, il y a cette génération-là. Et donc, cette génération-là, elle est aussi, c'est aussi l'émergence, puisque tu parlais de. C'est vrai qu'on est très actif en milieu urbain, parce que c'est aussi l'émergence de la question, finalement, des quartiers, de la question des banlieues. Dans le débat public. Et on a donc une histoire donc à Toulouse, notamment, voilà, moi je suis toulousain, hein, pas très loin d'ici. On a une histoire donc une histoire associative, une histoire politique, une histoire militante qui est liée à cette quête d'égalité, donc cette revendication de l'égalité, aussi à une revendication citoyenne. Parce que c'est aussi quelque chose qui est très important et qui va ancrer la question culturelle et patrimoniale. Enfin, j'évoque surtout ça, puisque c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. C'est pour nos parents et pour la société française, c'est la fin de l'idée du retour. C'est la fin de l'idée. C'est la fin de l'idée que. On allait retourner chez nous. Alors, pour mes parents, c'était peut-être vrai, mais moi, je suis né en France. Donc, bon, ici, on n'est pas à Toulouse, je peux le dire. Je suis né à Bordeaux. Parce que quand je suis à Toulouse, quand je dis que je suis né à Bordeaux. Donc, trêve de plaisanterie. Voilà. Donc, c'est la fin de ce mythe-là. Moi, j'ai grandi dans ce mythe-là. Le mythe du retour. Pratiquement, mon père et ma mère me disaient, voilà, ils m'ont élevé et ils m'ont dit, il faut que tu travailles bien à l'école, d'abord pour avoir un bon métier, pour, voilà, parce que l'école, c'est voilà, quelque chose de très important, mais aussi, il y avait en toile de fond l'idée que j'allais peut-être contribuer à construire l'Algérie indépendante. Donc, il y avait cette idée-là. Et il y avait aussi, quand même, du côté de la société française et de l'État français, l'idée que finalement, au moment un peu de voilà, tous ces travailleurs immigrés qu'on avait fait venir pour, voilà, dans l'après-guerre, enfin bon, ça a été évoqué, une fois qu'ils allaient arriver à la retraite, ils allaient retourner aussi dans leur pays, mais sauf qu'ils ont fait venir, voilà, parce que c'est humain, des femmes, et il y a eu des enfants qui sont nés, et voilà, et on est français. Et on est français avec cette histoire-là, et donc donc il y a ce travail-là sur le plan associatif, sur le plan culturel, qui est de construire finalement une expression politique qui soit recevable dans le débat politique. Alors c'est un chantier qui est pas encore complètement abouti, même s'il y a quand même eu beaucoup de progrès. Et voilà, c'est souvent des situations paradoxales en fait, hein, selon les époques. Souvent quand on dit est-ce que la situation a évolué, j'ai envie de dire bien sûr qu'elle a évolué, mais de manière paradoxale, il y a des choses qui sont beaucoup plus évidentes aujourd'hui dans l'acceptation de la diversité française. Et il y en a d'autres qui sont encore largement à conquérir, ou parfois on peut avoir le sentiment que ce sont des reculs. Mais en même temps, il y a une idée incontournable. Moi, ce qui m'a touché dans... donc nous, on a fait ce travail-là de vouloir s'exprimer par le biais notamment des expressions culturelles et artistiques, certes en contexte urbain, organiser des manifestations culturelles, produire de la musique, parce que, bon, ce que je disais, dans le champ politique, il y a encore du travail, même si on avance. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas empêcher, finalement, même quand les gens sont enfermés, on ne peut pas les empêcher de peindre. Enfin, en tout cas, il peut leur rester ça. Ils peuvent peindre, ils peuvent peut-être chanter, même si tout le monde ne les entend pas. Il y a quand même cette idée-là. Et il y a aussi, donc, tous ces artistes dont a parlé Naïma, c'est des artistes qui ont accompagné l'exil de nos parents et qui, même si il y avait une invisibilité ou une surdité parfois de la société française, il n'empêche que ça existait bel et bien. Donc on avait cette idée-là. Et en même temps, alors en plus en étant toulousain, notre éveil politique, il est aussi hérité de Toulouse. Il est hérité du quartier des Minimes. Il est hérité singulièrement à Toulouse, et voilà, je l'évoque à dessein ici, de la mémoire des républicains espagnols. Et notre premier, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'origine contrôlée, chansons d'immigration algérienne, donc un album qu'on a produit en 2007, il y a une dizaine d'années, raconter une histoire de l'immigration à travers des chansons. Alors quand je dis bien raconter, puisque je vous l'ai dit, on n'est pas historien, donc on l'a fait à partir d'une histoire personnelle, celle de notre père. Moi, tout simplement, on a choisi les chansons préférées de notre père pour raconter son histoire. Mais en 97, le premier album qu'on a produit, je ne parle pas de Zebda, mais en tant qu'association, ça a été l'album Motivé. Et donc sur l'album Motivé, qui était, voilà, motivé, chant de lutte. Donc l'idée, c'était pour nous comment naissent ces choses-là? Souvent, les militants politiques, nous on trouvait en tout cas que nos amis politiques négligeaient la dimension culturelle et artistique. Quand on se retrouvait dans des fêtes politiques, on trouvait que bon, ces questions-là, ces sujets-là n'étaient pas très présents. Et en fait, le projet de Motiver, on leur a dit, il est né de ça avec les amis de Zebda et des amis qui étaient militants politiques ou militants syndicaux. C'était de dire, mais il y a quand même un patrimoine des chants de lutte, un patrimoine de la chanson politique qui a accompagné nos aînés, nos ancêtres au combat. Et donc dans cet album-là, ben, il y avait forcément les chants de la guerre d'Espagne. Il y avait forcément Bella Ciao, il y avait forcément le chant des partisans, il y avait forcément des chansons algériennes aussi, il y avait forcément l'hymne sud-africain, l'hymne de l'ANC. Nous, on a finalement, de notre histoire, associative, politique, comme on avait une difficulté parfois à faire valoir notre point de vue dans le champ politique à proprement parler, alors on n'y renonce pas, Malika l'a évoqué, moi je me suis déjà présenté à des élections, j'ai déjà été élu, donc... mais j'étais opposant, donc il reste encore un peu de... Mais donc on n'y renonce pas. Mais en attendant, il faut quand même qu'on continue à porter la parole. Et de ce point de vue-là, les artistes ont un rôle déterminant. Et donc c'est pour ça que l'idée, quand on a fait la chanson motivée, par exemple, c'était on voulait qu'il y ait une chanson de manif, enfin une chanson qui soit... qui puisse être reprise dans les manifestations. S'il me reste 2 minutes, je vais quand même évoquer, parce que tu as dit, moi je trouve que... Donc c'est vrai qu'on évolue en milieu urbain, et ici on est en milieu rural, mais moi je trouve, et je tiens à le dire particulièrement, je trouve qu'on a réellement, et c'est pas de circonstance, vraiment des combats communs entre ce qui est au moins la question des quartiers populaires, et la question du milieu rural. Parce que finalement, on a toujours un sujet qui est celui de l'éloignement. Nous, on est à Toulouse, au Mirail, au nord de Toulouse, dans le quartier des Isards, dans les banlieues des grandes villes. Il y a toujours quand même une idée. Il y a au minimum un éloignement symbolique. Et parfois, alors c'est pas le cas à Toulouse, mais de manière générale, parfois des éloignements physiques et temporels très très importants. Et il y a cette idée aussi de finalement aussi représenter quand même par le travail par exemple qui est fait ici. Je suis désolé, mais bon, à Toulouse aussi, il y a eu des camps d'internement des Espagnols, non ? Pas très loin. Mais je pense pas qu'on n'ait pas du. Mais on n'est pas au même niveau de travail sur cette mémoire-là à Toulouse, même s'il y a eu donc, du coup, pourquoi je dis ça ? Simplement pour dire que. Il y a des choses qui peuvent se passer ici et des choses qui peuvent se passer dans les périphéries des villes qui sont centraux. Moi, je revendique la centralité. Cette idée qu'on n'est pas à la périphérie. Et donc, je finis juste là-dessus parce que ça me paraissait important. On sort peut-être un peu du sujet, mais je l'évoque d'autant plus que je pense qu'on est dans une idée, quand même, un petit air politique. Qui est en train de je ne fais pas de la politique politicienne, parce que ce n'est pas seulement d'aujourd'hui ou d'il y a un an, qui est en situation de crise, une espèce de mise en concurrence des territoires délaissés. Et donc, il y aurait... Il faut choisir les quartiers ou le rural. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre, on pourra en discuter, mais très récemment, j'ai encore entendu quand même cette idée-là, quoi, qui commence à planer. Moi, après, par ailleurs, je suis Toulousain, mais je connais bien ma région, et il y a aussi, notamment il y a aussi la réalité. Par rapport au sujet qu'on évoque, des villes moyennes, hier on était à Moissac, et je suis obligé de rajouter, je finis là-dessus. Allez. La petite anecdote, une petite anecdote, on était à Moissac, festival magnifique, donc on a une exposition, on y met une conférence, et on discutait avec des gens du festival, et bon, il y a une immigration bulgare assez. bon, bah, c'est présente, quoi, c'est visible à Moissac, donc plutôt récente. Et c'est vrai que, oui, c'est pas, mais on l'a vécu hier, et donc on nous a dit, oui, mais bon, c'est pas évident, ils sont bruyants, ils sont visibles et tout, et ce qui semble être vrai, mais du coup, nous, on est allé se balader, puis on a fait un tour, et on est arrivé, effectivement, on est arrivé dans un jardin, le jardin Simanazem, et il y avait plusieurs familles de Bulgares qui étaient là, dehors, et qui, voilà, qui faisait beau, et on est reparti, il fêtait l'anniversaire, en fait, on est reparti avec des parts de gâteau, au chocolat, bon, et finalement, je trouvais que symboliquement, ce qu'on a vécu hier, c'était touchant, parce qu'en fait, comme quoi, en fait, il faut qu'on travaille sur, je me suis dit, finalement, est-ce qu'on peut pas travailler sur la musique qu'ils écoutent, eux, sur, voilà.
Merci, Salah. Si on t'a invité, c'est qu'on connaît ta parole. Tu représentes des années de travail que beaucoup de gens connaissent. Et effectivement, il est important qu'il y ait ce que j'appelle des poils à gratter dans le champ politique, parce qu'on peut parfois s'endormir sur des acquis. Avant de donner la parole à Frédéric Callens, je vais faire une pré-petite synthèse, parce que comme je l'ai interpellé un petit peu pour m'aider à voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire demain, moi, ce que je retiens de ces évocations du rôle des artistes, masculins, enfermés, en période de guerre, en période de lutte, une évocation de la création artistique plus liée à de l'intime, de l'émotion, du sensible, qui s'inscrit aussi dans une période, on va dire, c'était encore les Trente Glorieuses, donc une période où la différence et la création étaient admises, avaient sa place, que tu restitues bien effectivement dans le champ du patrimoine français. Il y avait d'autres, tu évoques la création maghrébine, mais il y en avait bien d'autres à l'époque. Ce que Salah vient de nous rappeler, c'est effectivement la dimension politique qui reste présente dès lors que l'on touche à ces thématiques de la création artistique en confrontation avec l'autre, l'autre du quartier, l'autre de l'autre pays. Et ce qui m'importe, je crois, à travers ces messages, puisque la Mounière est un lieu de sensibilisation, de pédagogie. On a ciblé les jeunes quand on a élaboré le projet de la Mounière. Je crois qu'il y a déjà des messages importants. C'était la première diapositive de Geneviève. Moi, j'ai retenu le nom de dignité, de vie, de survie, de résistance. La période qu'évoquait Naïma était un peu plus soft, on va dire, mais il y avait quand même toujours cette quête de la dignité, de la reconnaissance, d'une différence culturelle, mais dans un même champ de production socio-économique et politique. Et ce que Salah évoque, c'est cette fragilité de tous ces thèmes qui font que l'homme est l'homme et qu'en plus l'homme peut être un artiste, ou l'homme ou la femme. Il y reste ces fragilités du champ politique à conquérir de façon incessante. J'ai beaucoup aimé ton évocation des sources, c'est-à-dire que chaque période se nourrit aussi des luttes, des combats précédents. Je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est un message important pour les jeunes, d'où l'importance de s'intéresser à l'histoire et à l'histoire culturelle en particulier, y compris lorsqu'elle est censurée, lorsqu'elle est interdite. Et la question qui se pose et que j'ai envie de transmettre à Frédéric pour cette dernière intervention, on va vous garder un tout petit peu de temps de débat, c'est effectivement comment, sur ces espèces de ce temps qui se construit, ce patrimoine qui se construit, la création évolue sur des champs. On a choisi d'en évoquer très peu là, hein, parce qu'on ne peut pas évoquer tous les domaines de la création artistique. Comment vous, dans votre institution, on pourrait imaginer de débattre, de montrer de l'art, de s'intéresser à certains courants plus que d'autres, à mettre en évidence des messages pour être en résonance avec des lieux comme la Mounière, si modeste soit-il, mais pour pouvoir mener ce travail qu'évoque Salah à l'instant.
Merci Malika. Donc, Je précise quand même que, puisque tu disais Cité nationale de l'histoire de l'immigration, Malika, donc je rappelle que c'est un musée national de l'histoire de l'immigration. Et c'est important parce que ça marque, qu'on soit d'accord ou pas avec faut-il un musée national de l'histoire de l'immigration, ça marque quand même une évolution importante dans le champ institutionnel. Alors c'est difficile de conclure. Moi, je pense qu'on est et on restera encore pour longtemps dans le questionnement autour de ces problématiques. Donc, et l'humilité l'impose de toute manière d'être dans le questionnement, étant donné encore les trous dans la raquette énorme qu'il existe autour de ces histoires et tout le travail, effectivement, de production de savoir qu'il reste à faire. Et on voit bien que ce travail ne fait que commencer, puisque cette dimension artistique et culturelle dans l'immigration, donc qu'évoquait Naïma, est finalement assez récente en termes de recherche. Ça a une vingtaine d'années. Donc, par rapport au temps institutionnel, une vingtaine d'années, c'est extrêmement court. La première chose que je voudrais dire, c'est que une des conditions pour que le travail puisse aboutir sur ces enjeux, c'est d'abord de ne pas travailler tout seul. Et c'est de conjuguer, en fait, des acteurs qui sont à différentes places et c'est la combinaison de ces acteurs qui va permettre effectivement que ce travail puisse aboutir et permettre une première reconnaissance dans la rencontre que j'ai pu faire moi avec Salam Okrane par exemple ou avec Naïma. Ce qui me paraît intéressant, c'est que moi je suis un acteur institutionnel donc qui produit de l'action publique mais qui me nourrit à la fois d'un travail de recherche qui a un rôle d'aiguillon pour les institutions et qui répond aussi à une demande sociale qui est incarnée par l'association Tactique Collective qui interpelle depuis des années les pouvoirs publics sur qu'est-ce que vous faites autour de ces questions et comment les prenez-vous en compte. Et on voit bien d'ailleurs que ici l'implication sans la mairie, sans un maire à un moment qui permet effectivement d'engager sa collectivité sur ces questions-là, les chercheurs que vous êtes n'auraient pu effectivement à un moment exposer et diffuser ce savoir, quoi. Parce que finalement, on doit répondre, je pense, à trois enjeux. Qui est un premier enjeu, qui est de produire du savoir. Et ça passe effectivement par une mobilisation de la recherche assez récente sur ces questions-là et par un rapport de force qui n'est pas toujours facile quand on est dans une institution, mais qui reste nécessaire. Moi, je dis souvent que si, en tant qu'acteur institutionnel, je ne suis pas bousculé soit par des travaux de recherche, soit par des militants associatifs qui viennent, mais aussi pour manifester leur mécontentement et leur colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne pourra pas aboutir, quoi. Et l'institution bouge à partir du moment où elle est interpellée par le bas, quoi. Et sur cette question de l'immigration, c'est une condition, à mon avis, de réussite pour permettre, effectivement, des avancées. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, vous le disiez, c'est, et ça a été évoqué, c'est l'éducation et c'est la transmission de ces savoirs. Et je pense que le Musée national de l'histoire de l'immigration doit répondre et doit de mieux en mieux répondre à cet enjeu de transmission et d'éducation autour de à la fois de cette connaissance produite pour répondre à cette demande sociale et pour permettre effectivement que la société avance autour de ces questions-là. Notre enjeu à nous, c'est pas Musée national de l'histoire de l'immigration, c'est pas de parler aux immigrés, c'est de permettre effectivement à la société française de changer son regard. Mais ça ne peut pas se passer si ça ne résulte pas d'une transformation sociale, parce que effectivement, on a effectivement des militants et des chercheurs qui interpellent effectivement des institutions autour soit de la production de savoir, soit par rapport à une demande sociale. Et on en parlait ce matin, on était effectivement à Moissac, sur la manière de conjuguer effectivement un travail social autour de la question de la lutte contre les discriminations, la lutte contre le racisme, de l'accès aux droits, et en même temps d'y mêler effectivement le champ culturel et artistique qui bien souvent est resté un peu à l'écart de ces combats. Donc moi je viens, je suis très récent au Musée national de l'histoire de l'immigration, j'ai intégré cet établissement public en septembre dernier, mais auparavant j'étais sur les politiques d'intégration, les politiques de quartier. Je confirme d'ailleurs ce que tu disais, Salah, c'est que les problématiques du milieu rural, finalement, quand on parle de la jeunesse, ne sont pas ici éloignées que celles du milieu périurbain. Les questions de mobilité, d'accès aux équipements, d'accès au savoir, d'accès à la connaissance sont assez convergentes entre la jeunesse en milieu rural et la jeunesse en milieu urbain, même si, effectivement, on voit bien qu'on essaye aujourd'hui d'opposer la question rurale à la question des banlieues. Mais on est tous autour de cette table d'accord pour dire que ce serait une impasse de poursuivre dans cette voie. Donc le musée, une fonction effectivement très importante de transmission et d'éducation. Et c'est l'un des points forts d'ailleurs du Musée national de l'histoire de l'immigration, puisque chaque année il forme environ 2000 enseignants autour des expositions, et pour permettre effectivement qu'une exposition soit en résonance et soit démultipliée en termes d'impact. Il ne suffit pas d'aller au musée aujourd'hui, il faut effectivement aller chercher l'éducation nationale, permettre aux enseignants de venir dans le musée, de les former, et il faut le faire à la fois vers le grand public, mais aussi vers les acteurs qui constituent autant de relais d'opinion sur ces questions-là, quoi. Donc je pense qu'il y a un travail de diffusion extrêmement important, de formation. Un autre enjeu, c'est effectivement aujourd'hui, à l'ère du numérique, la nécessité pour le musée de l'immigration de mettre en ligne l'ensemble des connaissances et l'ensemble des initiatives locales, dont celle-ci, et de la porter, de permettre de la porter à la connaissance du plus grand nombre. Et je pense que là, le musée, effectivement, est en train aujourd'hui de mettre en place une encyclopédie de l'immigration en ligne qui doit permettre, effectivement, pour des gens de cette fonte, à la fois de s'approprier des savoirs, mais aussi de véhiculer, de transmettre des savoirs vers le plus grand nombre. Et de ce point de vue-là, le musée peut jouer, évidemment, un rôle de démultiplicateur extrêmement intéressant. Et puis ensuite, il y a tout ce travail. Il y a deux autres enjeux qui me paraissent importants. Un, c'est le travail de collecte. Et donc là, c'est de s'appuyer effectivement sur des ressources qui ne sont pas à l'intérieur du musée, mais qui sont à l'extérieur du musée et qui doivent ramener vers le musée effectivement des objets qui peuvent après être interrogés s'ils doivent passer dans le registre des collections ou pas. Donc il y a un travail effectivement, parce que la question d'une collection se pose quand on fait un musée de l'immigration. Elle n'est pas si évidente en termes de réponse. Et je dirais le dernier enjeu, moi, qui me paraît important, c'est la mise en débat de toutes ces problématiques. C'est-à-dire que le Musée national de l'histoire de l'immigration, c'est un lieu de débat qui doit permettre effectivement à chacun de pouvoir se forger une opinion, un point de vue sur des questions extrêmement difficiles et qui sont extrêmement tendues au sein de la société française. D'où le fait que depuis que je suis dans ce musée, j'ai œuvré pour que un cycle de rencontres-débats puisse être remis en place dès septembre prochain, digne de ce nom, et, parce qu'il nous semble effectivement très important de pouvoir rendre compte de l'état des débats, des opinions autour de ces questions-là qui sont extrêmement tendues depuis de nombreuses années dans ce pays, quoi. L'enjeu pour nous, c'est aussi de ne pas devenir un faux lieu de reconnaissance et de ne pas se prétendre comme la seule institution qui contribue à la reconnaissance de l'immigration, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres voies pour permettre cette reconnaissance et pour permettre aussi et de contribuer à la notion de patrimoine, de passer de la mémoire à la question patrimoniale, d'autres institutions. Et je pense que le Musée national de l'histoire de l'immigration est aussi un espace qui doit interpeller ses pairs sur ces questions-là, et qu'en aucun cas il peut être un résultat final ou un aboutissement final ou un terminal pour les personnes comme vous au local qui travaillaient sur ces enjeux et qui révélaient effectivement des pages entières totalement méconnues par le plus grand nombre. Et un des enjeux pour moi, c'est par exemple dans la fonction ressources, c'est d'aller interroger les autres institutions culturelles parisiennes qui ont une vocation nationale et de voir qu'est-ce qu'elles font aussi de ces savoirs et qu'est-ce qu'il existe dans leur collection à eux qui sont en résonance avec les problématiques qui nous intéressent. Parce que si on devait parler vrai, on pourrait dire que le vrai musée national de l'histoire de l'immigration, c'est le musée du Louvre. Sauf que le Louvre travaille peu sur ses collections pour prendre en compte effectivement ces réalités, ces questions. Donc il y a tout un travail aujourd'hui qui est fait pour révéler dans les œuvres et dans les collections du Louvre la place de l'esclavage, la place de l'immigration. Ça me paraît effectivement extrêmement important que ce musée puisse aussi interpeller ses pairs sur ces questions-là. Voilà un petit peu comment le musée, enfin, comment moi, de la place où je suis en tant qu'acteur institutionnel, je pense et j'entrevois effectivement les perspectives autour de ce travail.
Si. J'ai posé une question un peu perfide à Frédéric, mais je pense qu'il s'y est préparé. Non, c'est effectivement une institution complexe. La première question que je pose, puisque je trouve intéressant, je vous la pose pas, hein, je pose une question, c'est la question des terminologies. Migration, immigration, déplacement. Ici, nous parlons de déplacement de population à cette fonds, ce qui nous permet d'intégrer tous les déplacements à travers le temps, à travers les formes. Et forcément, la lecture de la création artistique inhérente à chaque époque, de la préhistoire jusqu'à nos jours, lorsque nous abordons la thématique de l'art, passera par les institutions, les chercheurs, les ressources. Et comme disait Geneviève, qui est mieux placée que moi pour le savoir, en France, nous en avons beaucoup. Donc il y a aussi ce regard sociopolitique et culturel et artistique sur la société. Je pense qu'on y est vigilant en ce moment, parce qu'il en est question tous les jours, des déplacements de population, avec des formes complexes, et personne n'a la science infuse, personne n'a les réponses. Nous avons aussi organisé ce débat pour ces raisons-là, pour essayer de poser quelques questions à la lumière d'un territoire qui nous a fourni et nourri à travers des yeux et des travaux de chercheurs comme Naïma ou Geneviève. Voilà. Il ne nous reste pas beaucoup de temps avant de libérer au moins les trois amis à droite. Donc je vais proposer de recueillir, si vous avez des questions, peut-être deux, trois questions, et puis vous y répondez, vous en profitez. Nous vous laisserons partir disons que je clôturerai le débat dans 20 minutes, et vous pourrez partir 3 minutes après.
Je voudrais faire un hors-sujet. Oui, je suis Joanne Péricas. J'enregistre d'ailleurs en ce moment. Je voudrais faire un hors-sujet, mais qui, comme ça vous pourrez revenir tout de suite après. Geneviève Dreyfus-Armand a cité et a montré un certain nombre de peintres. Vous avez remarqué que pour 9 dixièmes d'entre eux, leur nom n'était pas vraiment castillan, ni asturien, ni rien de tout ça. Ils étaient catalans. Dans l'album Motivé, il y a l'Estac de Louise Liac et il y a un pays qui a voté le 1er octobre un référendum pour proclamer son indépendance et qui a reçu des coups de matraque à cette occasion. Et dans ce pays-là, à 3 heures de route d'ici, il y a des gens qui ne sont pas jugés, qui ont été élus et qui sont en prison. Alors si ce n'est pas les Catalans de la diaspora qui le disent, personne ne le dira. Voilà.
Quand j'ai vu votre chemise, je me suis dit... Une question qui s'adresse à vous, monsieur, l'avant-dernier qui avait parlé. Vous avez cité divers chants qui étaient chantés par certains groupes homonymes, par exemple, à Toulouse. Divers chants, le chant des révolutionnaires italiens, le chant des révolutionnaires espagnols, le chant des partisans et quelques autres. Mais vous en avez omis un, la Marseillaise. C'était volontaire ou pas?
Dans le cadre de ce projet-là, oui, c'était volontaire. Parce que on n'en a pas omis un, on en a omis deux. La Marseillaise et l'internationale. Dans ce projet-là, il s'agissait de chants de lutte et pas d'hymne, en fait, voilà quoi. Donc, on avait choisi un répertoire qui était un répertoire de chants de lutte. Et on s'est posé la question, parce qu'on l'a fait quand on a réfléchi à ce projet, on était avec des militants de gauche et d'extrême gauche, et qui nous avaient proposé l'international, par exemple. On leur avait dit, il n'y avait pas de rejet particulier de l'international, mais simplement, voilà, c'était l'idée de dire, on va plutôt être sur vraiment des champs de combat, des champs de lutte, des champs de résistance. Ça en sont, d'une certaine manière, les hymnes nationaux, mais ça pose un autre sujet. Voilà, bon, après on peut l'ouvrir, mais en tout cas, pour répondre à cette question, voilà, il y en avait deux, c'était les deux hymnes qu'on avait peut-être, voilà, qui sont venus dans la discussion. C'est pour ça que l'intéressant, elle est venue dans la discussion.
Oui, je suis cette Fontois d'adoption depuis 41 ans, mais je suis toulousain. Et j'ai entendu parler du camp de Jude, depuis 41 ans donc, hein, je viens en vacances à cette Font, et j'ai entendu parler du camp de Jude il y a une vingtaine d'années. Et pour moi, le camp de Jude, bon, c'était un lieu de promenade, le camp de Jude, ah bon, bien. Depuis plus récemment, donc, je sais maintenant ce qu'était le camp de Jude. Alors je vais, il y a 6 ou 7 ans, j'étais allé à Caussade acheter un journal et j'ai feuilleté par hasard un bouquin sur le camp de Jude. Et dans ce bouquin, il était écrit, alors, par l'auteur qui se disait historien, qui, je le crois volontiers, il écrivait « Le camp de Jude est un camp de concentration ». C'était écrit. Et madame, vous avez employé le terme « camp de réfugiés ». Alors, je voudrais, est-ce vous qui faites preuve de prudence, ou est-ce l'auteur?
Alors, je vais vous répondre.
Il y a 7 ans,
je vais vous répondre.
D'imprudence.
Je crois savoir à quel livre vous faites allusion. C'est une dame, effectivement, que je ne connais pas. Alors, il faut être clair. Et je l'ai été hier lors d'une conférence qui se tenait à Saint-Antonin, en 1939, les autorités françaises, le gouvernement, appelaient le camp de Sept-Fonds, comme les autres camps d'Argelès, de Saint-Cyprien, du Barcarès, de Bram, etc., les appelaient camps de concentration. Et on a les preuves. Il y a les papiers officiels des camps étaient intitulés camps de concentration d'Argelès, du Barcarès, etc. Pourquoi ? Parce que c'est le langage de l'administration. Quand l'administration a un vocabulaire, elle le garde pendant des décennies. Or, ce vocabulaire-là, elle l'avait employé en 1914, parce qu'il y avait eu des camps de concentration en France pour interner, lors de la déclaration de guerre, les ressortissants de pays ennemis, les Allemands, les Autrichiens, etc. Donc ce terme qui a été employé en 1914 en France a été employé spontanément en 1939. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Albert Sarraut, déclarait à la presse en février 1939 « Les réfugiés espagnols iront dans des camps de concentration. Ce ne sont pas des lieux pénitentiaires, disait-il. Ce sont des lieux où on les rassemble et ensuite ils pourront en partir. » Alors, c'est le langage administratif employé en 1939. Ensuite, les gouvernements, au fil du temps, pendant cette période, ont employé d'autres termes. Et notamment le régime de Vichy a employé camp d'hébergement, camp de rassemblement, etc. Le vocabulaire administratif a varié parce qu'il y avait quand même des réactions au niveau international. Alors, en tant qu'historienne, aujourd'hui, en 2019, je fais très attention aux termes que j'emploie. Parce que depuis l'histoire des camps d'internement français, il y a eu d'autres camps. Et chez les jeunes, il peut y avoir souvent des confusions entre les types de camps. Les camps français n'étaient pas des lieux de travail forcé, n'étaient pas des lieux où on cherchait à tuer les gens. Ils y mouraient parce que les conditions étaient mauvaises, mais on cherchait pas forcément à les tuer. Et employer sans expliquer le terme de camp de concentration est une erreur, à mon avis. Il faut toujours expliquer pourquoi on emploie ce terme. Il était employé en 1939, c'est une vérité. Il n'était plus employé après parce que les gouvernements voulaient adoucir la connotation. Les Britanniques l'ont utilisé dans la guerre des Bourgs, sauf que eux, ils ont fait, comme il y avait eu des gros problèmes, ils ont fait des débats parlementaires. Il y a eu des débats parlementaires en Angleterre. Et en 1939, ils ont aussi
créer des camps pour les ressortissants étrangers, mais ils n'employaient plus ce terme-là. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient réfléchi entre-temps. Les Français n'avaient pas réfléchi. Mais en tant qu'historienne, j'emploie le terme, souvent le terme plus général, de camp d'internement, qui me paraît plus juste, et ça ne minimise en rien les difficultés de vie dans les camps d'internement. Et si j'emploie le terme de camp de concentration, je dis que c'est à une date déterminée. Voilà. Mais cette dame, effectivement, l'emploie de façon indifférenciée, systématique. Et il y a des associations qui se font, effectivement, qui en font leur cheval de bataille. Ce n'est pas très intéressant.
Juste pour, au-delà de la nomenclature et de l'anachronisme qu'on peut commettre sur le sens des mots, moi, je voudrais simplement, à nouveau, je suis fan de Geneviève, vous avez remarqué, je vais juste la féliciter à nouveau parce qu'on vit des temps troubles aujourd'hui. On allume la télévision, on vous parle de l'Aquarius, on vous parle de la crise des réfugiés, on vous montre ces camps, à nouveau, sous le métro aérien à Paris, etc., etc., dans d'autres territoires, les barbelés arrêtent les flots humains. Je dirais simplement que ce que fait Geneviève aujourd'hui est très important. Et ce que vous entreprenez à la Maison des Mémoires de Sétouan est très important parce que vous nous dites comment l'histoire proche, très proche, nos voisins européens qui viennent dans notre pays dans une situation de guerre civile, avec des morts, des vies brisées, une résistance qui s'organise, ces descendants qui aujourd'hui sont membres à part entière de la communauté nationale, que personne ne remet en cause aujourd'hui, qui sont passés par des moments très durs, on le voit, très douloureux, ont gardé leur humanité. Et cette humanité s'est exprimée dans la création. Et c'est ce que nous essayons, chacun à notre place, modestement, de rappeler. Ces forçats de travail qui étaient les travailleurs immigrés, et d'autres disaient le Lupin prolétariat immigré, ces Algériens entassés dans les cabanes des bidonvilles, ces travailleurs portugais, idem, entassés dans les bidonvilles de Champigny ou d'ailleurs, n'en restaient pas moins des hommes et garder leur humanité. Et cette humanité prend une forme sensible. Et quand on expurge de cet angle mort culturel une narration socio-politico-économique de l'immigration ou des déplacements de population, quand on dépasse le seul fait de la migration économique, on déshumanise ces trajectoires et leurs héritages et leurs héritiers. Et on parlait de dignité. C'est une dignité retrouvée, revendiquée. Et si aujourd'hui, pour terminer, des mouvements sociaux, des membres de la société civile, comme l'exemple de Tacti Collectif, existent et interpellent, comme l'a rappelé Frédéric, les institutions publiques, les pouvoirs publics, c'est pour reconstituer une trajectoire humaine de cette filiation, de ces héritages qui sont presque, je terminerai là-dessus, déshumanisé dans une narration ou absent d'une narration commune, d'une histoire et d'une mémoire commune. Et cette mémoire commune, cette histoire commune, est le ciment de notre contrat social, est le ciment de notre société. Et ce contrat social, ou en tout cas ce matin on évoquait la question du vivre ensemble, ou du faire ensemble, ou du penser ensemble, on ne peut pas le défendre et le protéger si on ne reconstitue pas toute la complexité de ces expériences de vie. Bien sûr que les douleurs, les rats, les maladies, les ségrégations, les violences, les brimades sont une réalité qu'ont vécu notamment ces populations internées, qu'elles soient contraintes et forcées ou par le fait de l'histoire ou par le fait des nécessités économiques ou de ces Algériens qui fuient la guerre et qui s'installent en masse durant la guerre d'Algérie en France métropolitaine. Mais dans la nuit du réfugié, de l'immigré, du colonisé, de ce que vous voulez, il y a des moments de grâce et de création qui arrivent jusqu'à nous, comme sur cette toile de la mairie de Sept-Fonds. Et c'est cette lumière qui doit aussi rendre cette complexité au patrimoine des conflits, au patrimoine des résistances, des arrachements, des douleurs. On aurait pu parler du cas chilien, des intellectuels chiliens qui s'installent en France, et qui perpétuent ce combat pour la démocratie et qui évoquent leur martyr dans la presse, dans la chanson. Je dis ça devant Salah qui a travaillé sur le théâtre, bien sûr. Et donc voilà, on a comme ça des exemples nombreux et qui trouvent ici écho dans l'histoire de votre terroir, de votre territoire. Et c'est cette dimension, rendre humain ce qui était inhumain.
Moi aussi, je voudrais saluer ce travail parce que il comporte un enjeu aussi important qui est de ne pas enfermer ces personnes dans des statuts uniquement de victimes et de montrer aussi la complexité de chacun qui peut être à la fois victime et résistant. Et je pense que c'est quand on parle de changer le regard, de transformer le regard, ça me paraît extrêmement important qu'on puisse aussi complexifier aussi un petit peu et rendre compte de la complexité de ces situations qui peuvent être même contradictoires, c'est-à-dire à la fois être victime et résistant en même temps.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Merci, bonjour. Je voulais juste demander si, dans le contexte actuel qui est hyper délicat, quand on parle de migration à l'heure actuelle, ça fait, l'écho est pas très agréable, si au niveau de l'éducation nationale, il y a un travail de fait, puisque je pense que, est-ce qu'au niveau des enfants, c'est pas par là qu'on va pouvoir arriver à évoluer dans ce sens-là, et ne serait-ce qu'à cette fond, puisque ici, est-ce qu'il y a un travail de mémoire, est-ce qu'on parle aux enfants à cette fond du camp de cette fond, parce que moi j'ai appris, moi je suis née en 1953, je n'ai appris vraiment la réalité des camps il y a très peu de temps en fait. On parle des juifs, de l'internement des juifs, des pogroms, etc., mais je trouve qu'on en a très très peu parlé. Est-ce que c'était une volonté de l'éducation nationale, est-ce que dans les programmes, est-ce qu'on en parle maintenant, et est-ce qu'il est prévu qu'on en parle un peu plus compte tenu du contexte actuel? Est-ce que c'est une volonté? Vous parlez de ce qu'il faudrait faire dans l'avenir. Est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on régresse un petit peu et que c'est pas par là qu'il faudrait agir et pour évoluer dans un sens positif?
Alors, avant de passer la parole à Margot, parce que je pense que c'est la mieux placée pour répondre à la question, moi je travaille sur différents champs dans différentes régions et notamment des zones. J'habite en zone frontalière au Pays Basque et je travaille beaucoup dans les Pyrénées-Orientales avec des problématiques, et en Haute-Savoie avec des problématiques de frontières où ces questions de l'autre, de la frontière, du migrant, de l'immigrant, de l'immigré sont du quotidien. Ce sont des sujets qu'on en aborde tous les jours. Ce qui est nouveau. Et je suis très optimiste, moi, en termes éducatifs. Sinon, on n'aurait pas passé toutes ces années, je regarde Monsieur le maire en parlant, on n'aurait pas passé toutes ces années à travailler pour arriver tous ensemble à faire cette réalisation. Et ce n'est qu'un début. Je dis, la Mounière, nous l'avons conçue comme une boîte à outils. C'est une boîte à outils, ce n'est effectivement pas un centre d'interprétation, ce n'est pas un musée, c'est un lieu où on vient questionner notamment la pédagogie, puisque l'idée c'était d'apprendre l'histoire, et d'abord l'apprendre l'histoire aux gens du coin. Donc ça, c'est une problématique que moi je crois sur d'autres territoires, ce n'est pas propre ici à ce secteur. Donc le défi que l'on se lance à travers ce type de rencontre, c'est justement de provoquer de la sensibilisation, et je sais, et je peux dire qu'il y a de nombreuses actions en cours, et là je laisse parler Margot, parce que c'est elle la cheville ouvrière.
Oui, et sans peut-être rentrer dans tout le détail des actions, non pas qu'il y en ait et que ça nous prenne toute la soirée, mais parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et avant de passer la parole à une enseignante qui est venue, qui nous a rejoint et qui voudrait aussi pouvoir vous répondre, effectivement, il n'est pas forcément évident, et même quand on est dans un établissement proche, de pouvoir aborder le camp de Jude, notamment parce que la guerre d'Espagne n'est plus au programme, si je ne me trompe pas, et qu'il faut aussi pouvoir rattacher certaines sorties scolaires à un programme. Pour autant, c'est vrai que sur les thématiques, la thématique du camp, on est sur des thématiques qui font partie d'une compréhension du contexte de la Seconde Guerre mondiale, et les lycéens, et notamment les lycées, se déplacent et se déplaceront de plus en plus, je l'espère. Pour les collèges aussi, il y a la possibilité de pouvoir travailler avec eux sur ces thématiques, la thématique du camp et la thématique des déplacements de population liés aux événements de la Seconde Guerre mondiale. Pour les plus jeunes, C'est parfois même les enseignants qui peuvent être un peu frileux pour pouvoir évoquer ces questions. On a eu sur une visite sur la thématique de la chapellerie, en évoquant le personnage de Raymond Perrière, qui est l'ancien propriétaire de la Maison des Mémoires, qui a été déporté, des questions sur la déportation et de voir effectivement quel est le niveau, à nous d'adapter aussi le niveau du discours pour les plus jeunes et notamment pour les primaires. Mais de voir aussi comment... ce qui semble intéressant, c'est non pas uniquement d'aborder le camp de Jude, mais de voir comment le camp de Jude et cette thématique de l'exil peuvent aussi déjà ramener chaque élève à sa propre histoire, parce que beaucoup ont connu, soit sont issus de l'exil, soit connaissent quelqu'un qui peuvent connaître quelqu'un qui est parti en exil, mais rattacher aussi cette histoire à une histoire qui peut être plus personnelle, même si elle n'est pas liée directement à celle du camp de Jude, et voir aussi comment cela peut permettre d'apporter des clés de compréhension sur des événements actuels, ou en tout cas des pistes de réflexion, que sans apporter de conclusion, mais que chacun pourra ensuite faire germer et faire évoluer.
Ben bonjour, je suis Corinne Bude, donc professeure d'histoire au lycée juste à côté. Alors bon, c'est vrai que dans les programmes de lycée, en histoire, on n'aborde plus, dans le programme actuel, la guerre d'Espagne. Mais bon, les enseignants en espagnol l'abordent régulièrement. Alors cette année, c'est le hasard qui a fait les choses, hein, parce que c'est complètement au hasard. J'avais choisi le thème avant la table ronde et avant l'expo de Beaulieu. Donc j'ai choisi de faire travailler les élèves à la rentrée, une première littéraire de 35 élèves sur l'art et l'exil. Donc c'est très très bien tombé. Du coup, j'ai monté un projet avec cette classe. Enfin, je suis en train de monter les projets de demande de subvention toujours, parce que ça, c'est vrai que, comme le disait Madame Nicole, ça coûte 150 euros pour le déplacement pour venir du lycée. On pourrait toujours venir à pied, certains diront, mais bon, là, c'est assez dangereux. Donc, du coup, on a 6 ou 7 kilomètres, je crois. Et donc, 150 euros de bus, hein, c'est un coût. Donc, nous travaillerons cette année avec la Mounière. Et nous irons également à Beaulieu, avec qui j'ai déjà travaillé l'année dernière. Et donc, les élèves auront pour objectif de travailler sur l'art, sur la production, sur la création artistique, sous toutes ses formes d'ailleurs, si on peut trouver éventuellement des traces de... Enfin, je pense qu'il y en a, hein, à la maison de la Mounière. Et ensuite, donc, ils auront à leur tour, avec l'aide d'une intervenante plasticienne, à leur tour, ils devront produire un travail artistique type carnet de souvenirs à partir de personnages qu'ils imagineront être passés par le camp de cette fonte. Voilà. Et ensuite, l'autre projet qui va être fait, il y a deux autres projets qui vont être faits au lycée. Un deuxième projet qui va aussi venir ici, c'est ma collègue d'allemand qui va amener les élèves donc en Autriche au camp de Mauthausen. Donc elle va travailler sur la figure peut-être du déporté. Alors pour répondre au monsieur, pour avoir amené plusieurs fois les élèves dans des camps d'extermination, à Auschwitz en particulier, je pense que le mot de camp de concentration, comme l'a dit madame, on l'utilise aussi en classe pour ce type de camp sans que ça pose problème. En fait, des élèves arrivent à bien distinguer le camp de concentration type, bon, éventuellement camp de déportation et camp de concentration ou d'extermination. Voilà, c'était pour préciser. Et le troisième projet, c'est les BTS qui travailleront donc sur, éventuellement, on est en train d'y réfléchir, sur une application qui pourrait être faite, mais là, Madame Nicole vous en parlera mieux que moi, peut-être, enfin, normalement, j'interviendrai peut-être avec une classe de terminale. Voilà. Donc, l'éducation nationale, pour finir, s'intéresse à notre patrimoine de proximité et notamment à ce thème-là. Voilà.
Excusez-moi, je suis obligée d'interrompre 2 minutes le débat parce que nos amis doivent partir. Et donc, il n'y a pas de conclusion. Nous allons continuer à travailler. Nous vous remercions infiniment d'être venu jusqu'ici. Voilà, la suite va continuer. Le débat n'est pas terminé parce que je crois que Geneviève voulait vous donner une réponse ou un élément de réponse. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu. Je redonne le micro à Geneviève qui voulait apporter une précision.
Oui, je voulais apporter une précision à madame qui enseigne au lycée. Bravo d'abord pour vos projets, pour ce que vous réalisez. Si vous travaillez effectivement, s'il est prévu d'amener les élèves à Mauthausen, il y a un lien entre Sedfond et Mauthausen. Il y a un lien que vous connaissez peut-être. Bon, votre collègue vous en a parlé. Il y a un lien dans la mesure où beaucoup de travailleurs qui ont été enrôlés dans les CTE, dans les compagnies de travailleurs étrangers, sont partis de Sedfond et ont été affectés à la ligne Maginot au nord et à l'est de la France. Et beaucoup ont été faits prisonniers. Et dès le mois début août 1940, ont été déportés à Mauthausen. Donc il y a un lien, Sedfond a été une étape vers leur déportation en Allemagne. Alors ce que je voulais dire dans ma réponse à monsieur, j'étais un peu rapide, mais c'est vrai qu'en tant qu'historien, et je pense qu'en tant qu'enseignant c'est pareil aussi pour vous, on doit faire attention à ne pas semer la confusion. Il faut vraiment être précis sur la terminologie, et c'est vrai que les enfants peuvent parfois faire la distinction, parfois ils ne la font pas. Il y a différents types de camps. Les camps français n'étaient pas des centres de séjour agréables, loin de là. C'est des camps où on mourait, et beaucoup, en nombre, et notamment à Sedfond. Mais ce n'est pas le même type de camp que les camps de concentration nazis et que les camps d'extermination. Les camps d'extermination, il y en a 6 en Allemagne, enfin dans le Troisième Reich. Mais vous le savez aussi bien que moi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? Oui.
Oui, juste parce que Monsieur le Maire, pour compléter sur la question précédente de Madame, et Monsieur le Maire me rappelait que j'avais fait un gros oubli, notamment pour évoquer l'année prochaine est une année de commémoration importante des événements de la Retirada. Et effectivement, avec tout un volet pédagogique qui se fait en lien avec le camp de Rivesaltes. Le mémorial de Rivesaltes, qui est vraiment tête de file pour des projets qui vont se décliner sur différents lieux du Sud-Ouest et qui ont un volet à la fois artistique, mais aussi un volet pédagogique. Donc sur ces questions de transmission, c'est peut-être quelque chose qui n'aurait pas existé avant, mais le fait qu'il y ait aussi de plus en plus de lieux de mémoire autour de ces questions-là amène à ce qu'il y ait de plus en plus d'appui pour des sorties et des développements pédagogiques.
On est toujours à la chasse aux subventions. Ça nous prend énormément de temps. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui ont encore des enfants en bas âge et ils n'ont pas le temps de passer des dizaines d'heures à remplir des dossiers comme moi je peux le faire maintenant. Et c'est vrai que c'est toujours un obstacle. Hein. Voilà quoi. Donc, après, des projets liés à ces thèmes-là, ça se fait hein, dans beaucoup de. En lycée plus facilement parce qu'on a des thèmes en terminale notamment sur le travail de l'historien et de la mémoire. Donc on commence d'ailleurs l'année par ça, que ce soit la mémoire d'Algérie d'ailleurs ou la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que voilà, hein, c'est toujours pareil, amener les élèves sur place, etc. C'est toujours beaucoup de travail pour nous, quoi, hein, en dehors bien sûr de notre travail d'enseignant. Alors, pour les avoir amenés 4 fois à Auschwitz au cours de ma carrière, la réaction, elle est très très différente d'il y a 20 ans et aujourd'hui. La dernière fois que je les ai amenés, c'est en 2014. Ce sont ceux d'ici, de Caussade, puisque moi, ça fait 7 ans que je suis au lycée de Caussade. Je crois qu'il y a une différence. Les enfants ont pris énormément, enfin, les jeunes ont pris énormément de distance. J'amène toujours uniquement des terminales sur place. Et j'ai eu l'occasion de faire une fois la visite avec un ancien déporté qui est revenu sur place avec nous toute la journée. Il est resté dans le camp d'Auschwitz. Et je pense que les jeunes ont pris énormément de distance dans le temps. Et pour eux, c'est quelque chose qui est moins grave. Mais disons qu'il n'y a pas ce côté dramatique pour les jeunes d'aujourd'hui qu'il y avait il y a 20 ans. Voilà. Alors c'est normal parce que forcément il y a le temps, la distance avec l'époque. Mais et donc là c'est pareil pour eux, j'imagine le camp de Jude. Enfin là c'est un peu plus récent. Et puis surtout il y a peut-être dans leur famille. Ici j'ai posé la question hein, dans les classes, combien il y en a qui ont des grands-parents ou arrière-grands-parents qui sont rentrés en France à peu près dans les années 40, enfin 36, 40 et suivantes. Et il y en avait un bon tiers quand même hein, ici. Donc ils ont peut-être qu'ils sont un peu plus sensibilisés à, et donc peut-être que là ça sera une bonne expérience de travailler avec eux là-dessus. Voilà. Peut-être que parmi d'ailleurs vous il y a des enfants qui sont au lycée, enfin vous avez peut-être des enfants au lycée, mais bon voilà, hein, c'est on verra. C'est une expérience, je ne l'ai jamais tentée. Je suis pas d'ici, moi je suis toulousaine aussi, hein, donc je suis pas d'ici, hein, donc je découvre aussi. Si, je vais en trouver là. Ben, je n'ai jamais demandé puisque c'est la première fois que je vais y aller avec les élèves. Mais oui, je vais en trouver, mais en combinant diverses. c'est pas évident, hein, je peux vous dire. Ouais.
Pour ajouter sur ces questions d'intérêt des jeunes, madame vient de le soulever de façon très juste, il y a la question des générations. Les enfants, on va dire des personnes qui ont été déplacées et qui ont bougé, la première génération en général ne sait pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas parlé aussi, qui ne. Avant-hier, j'étais à Hendaye chez moi où j'ai aidé une personne à retrouver sa famille d'origine espagnole, qui n'est pas passé à cette fond, lui. Monsieur Casanova, et lui n'avait jamais entendu parler, il savait que la guerre d'Espagne avait existé, que sa famille était originaire de là, il est breton, et c'est ses enfants qui sont venus le harceler, en disant mais quoi, on sait pas, comment ça se fait, etc. Donc il y a aujourd'hui la deuxième, troisième génération qui revient vers des questionnements différents, quel que soit le type de camp. C'est aussi pour ça que ces thématiques à travers l'art ou d'autres je dirais des biais d'intérêt qui touchent beaucoup plus les jeunes, c'est pas pour rien que je m'intéresse à ce que fait Tacti Collectif, parce que ils ont des portes d'entrée extraordinaires pour permettre de retrouver des histoires, des trajectoires familiales, etc., avec une dédramatisation. Et puis il y a toute cette question sur le silence. Il y a très peu d'enfants, on va dire, de migration, de deuxième génération, de troisième génération, qui connaissent les histoires des grands-parents. Il n'y en a pratiquement pas. Donc, moi, je trouve la Mounière, on l'a aussi conçue avec cet esprit-là, d'utiliser un petit peu des trajectoires à côté, mais d'essayer de à la fois d'ouvrir les thèmes. Quand on parle des questions des déplacements de population, c'est aussi les déplacements économiques et climatiques, hein, il faut quand même en parler de plus en plus aujourd'hui, mais on a aussi pris en considération le fait de ces changements de génération et qu'on ne peut pas apprendre l'histoire de ces migrations comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans, ça n'a aucun sens. Sinon, je veux dire, les jeunes, ça les intéresse pas, ou oui, c'était bien le bon vieux temps. Ou alors, c'est dans le chapitre de l'histoire, comme c'est le Moyen-Âge ou le 18e, quoi. Donc, la dimension, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le travail de Naïma Yahi. Il y a peu d'historiens qui ont travaillé comme elle sur ces migrations intrafamiliales. Alors, on n'est pas dans des rapports sociaux, c'est pas du pathos, c'est même assez joyeux, mais elle parle de souffrance, de douleur. tous ces champs, Moissac est une des capitales françaises d'ailleurs, c'est aussi une façon de faire découvrir l'histoire des grands-parents, ou même si ce n'est pas la famille, de partager des histoires qui ne sont pas connues. Toutes les formes d'expression artistique ont connu des succès, je n'en veux pour preuve que les motivés qui sont toujours là, et les motivés ont été un mouvement national, mais c'était quand même un groupe de chanteurs, et tous les jeunes connaissaient ça. Donc c'est vrai que moi, quand j'amène des gens à cette fond, c'est très rare que j'aille sur le camp. En général, j'y vais pas. Je vais dans le cimetière espagnol où maintenant j'amène les gens à la Mounière, où je leur dis d'aller à la Mounière parce que ça ne percute pas comme ça percutait il y a quelques années. Voilà. Il y a la question du mémorial. Bon, je vais beaucoup en Espagne parce que je suis effectivement frontalière. J'observe aussi ce qui se passe en Espagne. Qui est intéressant au niveau de la prise en compte de l'histoire et de la mémoire qui est très récente. Et là, les expressions artistiques sont majeures. On ne peut pas dire le contraire. Et beaucoup de choses sont passées par l'art, y compris des très grands noms.
C'est un bon moyen, voilà, d'intéresser les jeunes à l'histoire, de raccrocher un thème à l'art. J'enseigne aussi l'histoire des arts, donc du coup c'est pour ça aussi que ça m'intéresse. Voilà.
Mais dans les camps, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais il y avait aussi des chansons qui ont été créées par, enfin je parle des Espagnols, mais il y en a plein, il y a tout un répertoire de chansons. On a aussi les airs, et il y a eu aussi à Mauthausen des chansons qui ont été, oui, alors évidemment Germaine Tillion, Ravensbrück a écrit et représenté un opéra. Hein, qui a été donné il y a quelques années au Théâtre du Châtelet à Paris. À Mauthausen, les Espagnols aussi ont écrit des chansons et ils n'ont pu les donner publiquement que le jour de la libération du camp en mai 45. Mais on a les textes. On a même, parce qu'un disque a été enregistré dans les années 60. Donc on a les textes et la musique.
Oui, bonjour à tous. Pour rebondir sur ce que vient de dire Geneviève, il faudrait retenir une date, le 6 octobre, à Caussade, organisée par l'Université populaire. Il y aura des chants sur les camps espagnols. Voilà.
Oui, justement, je crois que ce sont des chants écrits dans les camps ou autour de la retirade, et il y a des textes qui sont vraiment extraordinaires. Ça, c'est une belle initiative à Caussade.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? C'est bon? Voilà. En guise de conclusion, j'ai fait une pré-conclusion parce que je savais que nos invités allaient partir. On reste sur cette question des jeunes. Puisque finalement, on était parti de ça il y a 6 ans. On y est toujours. Il faut poursuivre. Et moi, je m'adresse toujours aux parents, aux grands-parents. La question de la transmission, pour moi, elle est importante à 2 ou 3 niveaux. Que les transmissions se fassent autant que possible à l'intérieur des familles, c'est toujours un vœu qu'on peut formuler. À vos enfants ou vos petits-enfants ou vos arrière-petits-enfants à venir. Ce travail autour de l'art et notamment de la chanson, du conte, de tout ce qui est transmis et qui nourrit aussi la création actuelle. On a eu deux très bons exemples. Je crois qu'il faut garder en tête quelques mots que Geneviève a prononcé dès le départ. Moi, je retiens le mot de dignité parce que la création artistique, c'est un élément effectivement de sauvetage des êtres humains. Et puis tout ce qui touche à l'espoir, au témoignage, à la résistance, etc. Mais surtout, ce que j'ai, des points sur lesquels j'avais effectivement interpellé à plusieurs reprises Frédéric Callens, au-delà des institutions, il y a des réalités humaines, et continuer à questionner ces réalités, c'est aussi admettre l'imperfection de nos programmes, l'imperfection de nos propositions culturelles et artistiques, mais en tout cas les permettre, les autoriser, en faciliter la diffusion. Et puis en se rappelant quand même qu'il y a un ancrage historique et que je titille Geneviève parce qu'on attend tous son livre avec impatience. Mais non, parce qu'après on pourra te demander d'autres travaux. C'est effectivement d'abord pour apprendre l'histoire, mais une manière aussi de, voilà, de préparer de la transmission, qu'elle soit pédagogique, parce que ça, c'est effectivement le travail des enseignants. Et en tout cas, moi, je reste... parce que je ne suis plus à cette fond, je ne travaille plus pour cette fond, mais j'ai toujours plaisir à venir, comme Geneviève d'ailleurs. Nous venons en toute liberté pour, je dirais, nourrir une réflexion des démarches que l'on rencontre ailleurs. Moi, je rencontre ces problématiques sur la résistance en Haute-Savoie, etc. Donc, il me reste à vous remercier beaucoup, chaleureusement, d'être venu. Monsieur Pujol n'est plus là. Il est parti. Bon, dommage. On voulait saluer Marc Pujol, qui nous a fait le plaisir de venir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Je crois, Margot, que tu as des rendez-vous à proposer.
Juste avant de vous libérer, donc vous remercier aussi pour votre intervention et pour la réflexion que chacune des interventions a pu amener. Et effectivement, donc il reste plusieurs rendez-vous encore à venir, notamment mardi prochain. Donc pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de faire la visite aujourd'hui sur les peintures ou pour découvrir le travail de restauration qui est fait des œuvres du chemin de croix de l'église, la restauratrice donc se propose mardi soir à 17h de présenter ses travaux de restauration du chemin de croix. En autre rendez-vous en septembre sur le même format mais avec trois intervenants cette fois-ci le 7 septembre et dans une même idée de pouvoir relier à la fois l'histoire et le présent, on vous propose de réfléchir sur les questions de politique d'accueil et hospitalité et voir comment effectivement ces questions se sont posées en 1939, se posent encore aujourd'hui et avec la présence en plus d'historiens et politologues, d'un philosophe pour voir aussi comment ces questions d'hospitalité en dehors de toute politique peuvent nous parler à chacun d'entre nous. Voilà, et effectivement, donc la Mounière est aussi partenaire de l'événement du 6 octobre et c'est le spectacle Aller-Aller, hein, si je me trompe pas, à l'Université Populaire. Et je vous invite à laisser vos coordonnées sur une feuille qui est à votre disposition en sortie si vous voulez être informé des prochains éléments de programme. Et c'est au cinéma, si je me trompe pas. Et merci beaucoup.